sous la coupole du Grand Palais ce matin, comme l'impression d'assister à une thérapie de groupe.
Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici.
Le mot qui revient d'abord, c'est l'émotion.
Mettre de l'humain au cœur de la démarche.
Du respect également dans les idées qui se sont exprimées.
Dans l'assistance, des citoyens, des maires, des directeurs d'administration et des membres du gouvernement. Tous réunis autour d'Édouard Philippe pour faire la synthèse du grand débat national lancé en réponse à la crise des Gilets jaunes.
Ces réunions au public, elles ont fait honneur d'une certaine façon au débat démocratique en étant très loin des exemples de violence que d'autres se complaisent à donner chaque samedi.
Le Premier ministre en est persuadé, il y aura un avant et un après grand débat.
Le grand débat se termine, mais l'exigence de participation demeure. Et le président l'a dit, nous ne pourrons plus gouverner comme avant.
Le grand débat donne l'impression d'avoir redonné de l'élan à la vie démocratique. Cahiers de doléances, contributions en ligne, réunions publiques, conférences citoyennes, avec tirage au sort des participants, de nombreux Français se sont emparés de cette consultation inédite.
Il a taxé ceux qui étaient les plus modestes.
Ici en Gironde, à Sainte-Eulalie, le débat est aussi pour certains un moyen d'étouffer les colères.
Ça sert à rien. Ça, franchement, c'est ridicule. C'est pour nous enfermer dans des salles et pour pas qu'on soit dans la rue. C'est tout.
Alors, quelles mesures Emmanuel Macron devra-t-il annoncer pour éviter que le grand débat ne tourne à la grande désillusion? Faut-il pérenniser ce type de consultation? Est-ce une première étape pour refonder une démocratie à bout de souffle?
Donc un internaute téléspectateur qui se demandait, vous demande si on a insisté à un grand débat ou à un grand jeu de questions-réponses. Jacques de Saint-Victor, c'était quoi effectivement ce débat? Est-ce que c'est un exercice démocratique ou une sorte de thérapie de groupe, en tout cas quelque chose de cathartique?
Oui, c'est pas mal l'expression thérapie de groupe. C'était déjà dès l'origine prévu, c'est-à-dire qu'il fallait laisser s'exprimer une partie des Français.
Et, ailleurs que dans les ronds-points, que sur les ronds-points et dans les rues.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi au fond à faire parler une autre France que celle de la France des Gilets jaunes, en réalité. Celle qui a participé à ce grand débat, pour l'essentiel, ce n'est pas la même France. Et on verra d'ailleurs comment le gouvernement va utiliser ce biais, parce que l'idée, c'est d'essayer de faire croire que ceux qui participent au grand débat, au fond, expriment la totalité du corps social, là où en partie, on peut dire que ceux qui ont participé à ce grand débat, eh bien, ce sont ceux qui sont plutôt, disons, bien insérés, qui sont en faveur de ce que fait Emmanuel Macron, et qui restent toute une autre catégorie de Français qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimés.
Alors là, vous faites un peu de la sociologie. Quant à qui a participé à ce grand débat, on va faire de l'arithmétique avec un chiffre. Combien de gens se sont exprimés? Combien de citoyens français ont donné leur avis?
1,5 million de Français, c'est notre chiffre du jour, ont participé d'une manière ou d'une autre, physiquement ou par Internet, à ce grand débat. Je me tourne vers vous, Isabelle Falque-Pierrotin. 1,5 million de Français, on parle de parole de Français du côté du pouvoir, pas de la parole des Français. C'est pas tout le pays, mais c'est énorme. Ouais. Comment fait-on, quand on est garant, quand on est institut de sondage, pour rendre au plus juste possible cette expression qui a duré plusieurs semaines?
D'abord, c'est peut-être plus que 1,5 million de Français. Probablement entre 1,5 million et 2 millions. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs dispositifs de recueil de la parole des personnes. Et probablement que les publics ne sont pas les mêmes selon les différents capteurs. Par exemple, il y a un chiffre très intéressant qui a été donné ce matin. 60% des gens qui ont participé aux conférences régionales citoyennes, donc les fameux Français tirés au sort, n'avaient aucun contact avec des réunions publiques ou des réunions associatives avant de participer à ces CCR. Ça veut dire que ces gens-là sont sortis de chez eux pour prendre la parole et profiter de ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on restitue? Nous, les garants, on est 5, au passage.
Très bien.
Nous, les garants, nous avons dit il ne faut pas écraser cette parole collective, en ayant l'idée qu'on va faire une synthèse un peu monocolore. C'est impossible, vu la variété des dispositifs. Donc, il y a plusieurs types de restitutions qui donnent à voir, finalement, un paysage d'arguments qui est extrêmement riche. Et ça, je crois que...
Et contradictoire, parfois.
Et contradictoire, dans certains cas. Et la manifestation de ce matin était intéressante, parce qu'on a vu ce qui était commun selon les canaux, ce qui était différent... Donc, si vous voulez, c'est ça, finalement, la restitution qu'on a obtenue.
Yves Saint-Omer, après restitution, transformation, qu'est-ce que ça devient ?
Écoutez, le problème, c'est qu'on s'est engagé, les Français qui ont participé sont engagés dans un jeu dont on ne connaît
pas. Vous appelez ça un jeu ?
Dont on ne connaît pas les règles finales. Mm-hmm. On ne sait pas comment la synthèse va être véritablement faite, puis mise en œuvre politiquement. Quels sont ces délais, qui va exactement.
Il y a un manque de transparence, vous voulez dire, dans cette entreprise ?
Pas dans la période précédente du grand débat, mais aujourd'hui.
À partir de maintenant ?
À partir de maintenant, d'accord. Et c'est tout de même maintenant qui compte.
Ouais.
On a évité d'avoir une architecture qui aurait permis, à partir des débats locaux, de passer à des débats régionaux, puis à des débats nationaux qui auraient monté en généralité et permis, petit à petit, de construire une synthèse raisonnée. Et du coup, le gouvernement et le président de la République se sont mis au centre du jeu en disant « Mais voilà, c'est éclaté, il y a des choses qui vont dans tous les sens. C'est à nous d'incarner l'intérêt général, à l'heure même où la capacité des partis politiques
et du
président de la République à incarner l'intérêt général a été remise en cause. »
Une réflexion sur ça,
Jacques de Saint-Victor ? Un point, c'est beaucoup, 1,5 million, et puis c'est finalement pas tant que ça, parce que, regardez, on parle de cahiers de doléances. En 1789, les cahiers de doléances, c'était plus de 10 millions à peu près de personnes qui participaient directement à la rédaction de ces cahiers. Vous voyez la grande différence tout de même. Donc 1,5 million, c'est une France impliquée qui a en effet envie de donner son avis.
Mais ce n'est pas une France en train de se disloquer comme la France de 1789 ?
Ah, non,
on va mieux.
Je pense pas que la comparaison aille aussi loin, mais
voilà.
C'était juste pour souligner que la mobilisation n'était pas aussi
grande énorme
qu'on peut quand même le voir.
Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ce que je trouve intéressant dans la restitution, c'est qu'en réalité, quand vous regardez instrument par instrument, il y a un relatif consensus sur les éléments de diagnostic. Pas sur les solutions, mais sur les éléments de diagnostic. C'est-à-dire, par exemple, la transition écologique, c'est une urgence absolue, on n'en fait pas assez.
Ça arrive en troisième place, hein, apparemment.
Non, mais bon, la fiscalité, on paye trop d'impôts et le dispositif fiscal n'est pas lisible. L'organisation des pouvoirs publics, elle est beaucoup trop complexe, on veut de la proximité. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de diagnostic partagé de la part des Français. Après, vient effectivement la question de la transformation politique. Ça, je partage ce que vous avez dit. Ça n'est pas inscrit dans le grand débat lui-même.
Alors, faites-nous écouter le Premier ministre.
Oui, qui répond un peu à Yves Saint-Omer, parce que se mettant au centre du jeu, le Premier ministre, ce matin, s'est quand même un petit peu fustigé sur une mesure qui, autrefois, était chère à son cœur, entendant Édouard Philippe sur les 80 km/h.
La bonne foi, c'est celle qui m'a, par exemple, conduit à instaurer les 80 km/h. Je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir des caisses. Je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens. Renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération politique.
Jacques de Saint-Victor, renouer avec une forme de confiance, ça peut être aussi respecter aussi scrupuleusement que possible ce qui a été dit dans ces paroles de français. À l'instant, Isabelle Falque-Pierrotin, vous disiez, pardonnez-moi, qu'il y avait une espèce de consensus qui s'était dirigé vers « on paye trop d'impôts ». Mais dans le même temps, je suis allé sur le site, 10% des Français spontanément veulent rétablir l'impôt sur la fortune, 27,1% veulent plus taxer les riches, 11,8% veulent abolir toutes les niches fiscales, ce qui dit exactement le contraire. Donc, à quel saint devons-nous nous vouer ? Celui qui nous dit « on paye plus d'impôts » ou celui qui nous dit « taxons les riches ».
Alors la restitution qui a été faite ce matin montre justement les contradictions internes qui existent entre différentes populations de Français et différents modes, encore une fois, de recueil de la parole citoyenne selon qu'elle est individuelle ou collective. Et quand elle est collective, de temps en temps, l'appréciation n'est pas exactement la même. Je reprends la transition écologique.
Je voudrais vraiment qu'on reste, c'est pas pour vous censurer, qu'on reste sur la
fiscalité. Sur l'impôt.
Parce qu'on a entendu le Premier ministre, je vais aller vers vous, Jacques de Saint-Victor, parce que la question était pour vous. On a entendu le Premier ministre dire, les gens ne veulent plus d'impôts. Dans le même temps, des gens disent exactement le contraire.
Mais peut-être l'avait-il découvert avant le grand débat. C'était son programme politique.
Ce que vous voulez dire, c'est que la parole des grands débats a moins compté qu'un programme préétabli.
Bah, dans ce cas-là, franchement...
Jacques de Saint-Victor.
Oui, non, bah, j'irai dans le sens d'Yves Saint-Omer. Moi, je pense qu'en effet, c'est... D'une part, je pense qu'on n'avait pas besoin de grands débats pour savoir au fond ce que savent un peu, ce que veulent les Français, dans la mesure où, aujourd'hui, dans une démocratie aussi sophistiquée que la nôtre, on a tous les moyens, un gouvernement a tous les moyens de savoir ce que veulent ou non les Français. Donc le grand débat, il n'était pas là. Le grand débat, il était destiné à donner à un moment la parole à une partie de la population française. On avait besoin de retrouver un lien. Vous parliez de crise de confiance. Je pense que c'est surtout ça qui est au centre de toutes les interrogations d'aujourd'hui. Et il fallait trouver un moyen pour renouer, mettre un peu moins de méfiance et retrouver un peu de confiance avec les Français. Le problème, et moi je ne suis pas convaincu que ce soit... Quand vous dites 16% des Français, c'est 16% des gens qui ont participé à ce grand débat.
Des gens qui se sont manifestés, 16% de 1,5 million
et donc,
à 2
millions. Là, il y a un biais, qui va être...
Même pas, c'est de ceux qui ont répondu en ligne. C'est-à-dire où il n'y avait pas de débat, mais des contributions individuelles, parce qu'autrement, ce n'est pas quantifiable.
Vous voulez dire que ce n'est pas ça un débat, sinon. Alors, il y a eu des lieux, il y a eu des endroits où il y a eu des débats, mais alternatifs, Nadia, est-ce que ça a été marqué par le succès ?
C'est le off du grand débat, en quelque sorte, effectivement, puisque vous le disiez, les gilets jaunes dans leur ensemble, ils ont refusé de participer à ce grand débat qu'ils avaient qualifié d'entourloupe ou de grand enfumage, mais ils ne sont pas contentés de boycotter puisqu'ils ont aussi créé leurs propres espaces de débat, comme par exemple l'Assemblée des Assemblées. Ça réunit ce week-end 250 délégations de gilets jaunes qui sont venues d'un peu partout en France. Et ça s'est passé donc dans un bâtiment désaffecté de Pôle emploi à Saint-Nazaire. Et alors, comme pour le grand débat, il existe une version internet chez les gilets jaunes, ça s'appelle Le Vrai Débat, levrai-débat.fr. Et c'est donc une consultation en ligne qui a commencé le 30 janvier et qui, elle aussi, vient de rendre public ses résultats. Toutes les données, elles ont été analysées très sérieusement par des chercheurs, notamment par un laboratoire du CNRS, et elles étaient très nombreuses, ces données. 44 000 participants, 1 million de votes et 93 000 arguments. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui arrive en tête des revendications exprimées sur ce site internet, c'est la suppression de ce que les personnes ont appelé les privilèges des élus, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc. Et on peut noter également que l'écologie s'est arrivée comme troisième thème parmi ce qui a suscité le plus de propositions. Yves Saint-Omer, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Est-ce que ces initiatives alternatives, elles symbolisent une forme de défiance qu'on connaît, ou est-ce qu'à l'inverse, ça symbolise une effervescence démocratique? Ça montre que le citoyen est investi, contrairement à ce qu'on a pensé.
Je crois franchement que les derniers mois ont montré que les citoyens étaient investis, que nombre de citoyens, en tout cas, étaient investis. Tout le monde n'est pas investi en permanence, c'est une évidence. Mais que le discours sur l'individualisme de la société française est un discours qui passe à côté de la situation actuelle. Et je crois que ce vrai débat, entre guillemets, qui a été organisé par des gilets jaunes, mais pas simplement, montre à la fois une défiance par rapport à la façon dont le débat, le grand débat était organisé, mais surtout à la dynamique, la séquence dans laquelle il s'inscrivait. C'était à l'évidence pour le président une manière d'essayer de renouer avec une autre image, avec la population qui visiblement l'avait largement délaissée. Et puis, d'un autre côté, de s'engager aussi tout de même dans un débat constructif avec des propositions.
Ce sont des propositions, effectivement. Voilà. Ce n'est pas un engagement contre,
pas simplement,
c'est aussi un engagement
pour
des choses.
C'est une défiance d'un côté, mais en même temps, un engagement constructif de l'autre. Et je crois qu'il faut le prendre au sérieux, car au-delà des chiffres, ils expriment, je pense, une large frange de la population, eux aussi.
Jacques de Saint-Victor, en bonne démocratie, un pouvoir, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a le droit de choisir dans ce que réclame la population, ce qui correspond à son programme. Ils ont été élus pour ça.
Absolument.
Ils sont légitimes à baisser les impôts, par exemple.
Oui, oui, absolument. Ça, c'est clair. En bonne démocratie, on a investi un gouvernement pour qu'il choisisse. Simplement, il y a eu une grosse crise sociale. Une crise sociale importante. Au mois de décembre, on se souvient, la situation était vraiment très, très tendue. Donc, en bonne démocratie, normalement, on n'avait pas besoin de recourir à ces grands débats et autres. Il y a quelques instruments, normalement, démocratiques qui sont là pour essayer de trancher. Soit si on veut ou non changer de politique, eh bien, on doit demander au peuple de s'exprimer.
Et ça passe par les urnes.
Alors, par les urnes. Et on peut comprendre que Macron ait eu quelques inquiétudes à nouveau faire comme le général de Gaulle en 1968. D'une part, tout le monde n'est pas...